On a déjà chanté plusieurs chants sur le règne, sur Dieu qui est Jésus qui est roi. Et le thème de ce message, c'est régner avec Christ. Donc l'équipe de louanges le savait. Merci, parce que vraiment l'introduction, elle est faite, ça y est. Et on voit que c'est dans cette position d'intimité avec Jésus que l'Église peut se lever pour régner. Et on va justement un petit peu creuser, savoir ce que ça veut dire, régner avec Christ. Et c'est un message qui est tellement long, qui est tellement vaste, qui est tellement profond, que je pense que je vais développer ça sur plusieurs dimanches, à mon avis. Là, le point de départ, en fait, de ce message, c'était une petite recherche que j'avais faite sur le millénium. Et rassurez-vous, on ne va pas travailler sur le millénium aujourd'hui. Je ne suis pas du tout prête, même si c'est un sujet passionnant. Mais par contre, la Bible, elle nous dit d'être prêt. Elle nous dit d'être prêt à ce que Jésus revienne n'importe quand. Et qu'est-ce que ça signifie si Jésus revient? Il y a aussi plusieurs conséquences. On va prendre dans Apocalypse 20, verset 4. Qu'est-ce que ça signifie être prêt au retour de Christ? Verset 4. Donc, « Et je vis des trônes. » Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent passés. C'est la première résurrection. Et dans le chapitre 6, dans le verset 6, pardon, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc c'est dit deux fois. Ça montre que c'est important. S'il y a quelque chose qui est répété dans la Bible, c'est que le Seigneur veut nous parler à travers ça. Et donc si on suit, qu'on adore Jésus comme on l'a fait aujourd'hui, hein, et comme on le fait tous les jours, et non pas la bête. Si on est de vrais disciples, on va ressusciter pour régner avec lui. Ça, c'est la promesse qui est donnée là. Et en fait, quand j'ai médité sur ce passage, c'est vraiment ce qui m'a sauté aux yeux, c'est « Ils régneront ». Ils régneront avec Christ. D'où le titre du message. Et dans le livre de Daniel, on peut retrouver cette annonce. Daniel 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Au verset 22, c'est redit, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc il y a une annonce de ce royaume qui vient, qui est déjà là, qui n'est pas encore là. Hein, on vit un peu dans cette double réalité du royaume qui va venir, mais qui est déjà là en nous. Et Daniel 7, 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc ça, c'est l'annonce de ce qui va venir. Et qu'est-ce que ça veut dire se préparer pour ça? Donc c'est ce qui m'a fait un petit peu creuser cette idée. De régner avec Christ, comment on fait pour se préparer à régner avec Christ? Comment on fait peut-être même déjà pour régner aujourd'hui avec Christ? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si on prend la définition du Larousse, régner signifie exercer le pouvoir suprême dans un état en tant que souverain. Donc ça on comprend bien. Exercer sur un lieu, un groupe, une domination totale. C'est Larousse qui le dit, hein. Exercer son pouvoir, avoir un rôle, une influence prépondérante sur quelque chose. Et Larousse donne comme exemple faire régner la justice sur le monde, j'aime bien. Synonyme dominer, gouverner, régenter, régir, être bien établi quelque part. Donc là c'est une signification un peu plus soft, on va dire, hein, quand les opinions règnent sur tel et tel pays par exemple, ou une opinion règne. Donc on a quand même cette idée qui a une forte influence. Et c'est là que ça commence à piquer un peu. Pourquoi ça pique un peu? Parce que on a malheureusement de mauvais exemples humains devant nous. et dans le passé de notre histoire française, entre autres, des rois qui n'ont pas établi cette domination d'une manière juste, puisqu'ils étaient humains, donc faillibles, et donc qui en ont aussi, qui ont fait des dégâts. Et je pense que justement, le Seigneur nous appelle à guérir notre histoire française pour que l'Église de France puisse se lever et régner avec Christ, mais selon les bons fondements. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on va prendre un temps d'intercession, de prière. C'est pour justement se débarrasser des mensonges, des fausses images, de tout ce qu'on a hérité de notre passé, pour être vraiment purifié de cette image humaine, pervertie par l'ennemi, évidemment, de la royauté, et pour recevoir l'image que Dieu veut nous donner, qu'on ait cette révélation dans nos entrailles, qu'elle reste, que Dieu nous donne la vérité, en fait, de ce que ça veut dire. On l'a chanté, Dieu règne, ça c'est clair. Malgré tout ce qu'on peut voir, malgré tout ce qu'on entend aux actualités, on voit que Dieu, malgré tout, on le sait, on le proclame, hein, Dieu règne, il est bien sur son trône, il est souverain. Et en fait, la question c'est, est-ce que l'Église règne ? Question piège. Est-ce que l'Église règne ? Donc ça c'est notre part. Vous êtes le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas ? Et dans Romains 8, il nous est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Alors Romains 8, 16... L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc il faut bien sûr le suivre, se charger de sa croix, etc. Vous connaissez. Donc si nous comprenons l'adoption, nous vivons l'adoption, nous sommes les fils et filles de Dieu. Nous devons comprendre, nous devons vivre aussi l'héritage qui est attaché à cette réalité. Et nous héritons du royaume. Et l'Église, elle est appelée à exercer son autorité, l'autorité qui vient du royaume, de cette autre réalité, aux côtés de Christ. On le voit dans Matthieu 16, versets 18 et 19. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc c'est Jésus qui parle à Pierre. Il vient de lui donner une révélation sur qui est Jésus. Il est le Messie, il a reçu de l'Esprit. Bon, à la fin du chapitre il le renie, vous connaissez toute l'histoire. On voit que Jésus s'attend pas à ce qu'on soit parfait pour nous établir, n'est-ce pas ? Pierre l'était pas et pourtant il l'a été établi. Comme un apôtre pour son église, l'église avec un grand E, n'est-ce pas ? C'est tout le corps de Christ, l'ensemble des croyants en Jésus. Et donc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés, c'est vraiment symbole d'autorité. On a des clés. Et Jésus donne des clés à l'Église. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc c'est quand même une grande responsabilité. Pour exercer cette responsabilité, bien sûr, il y a une préparation. Et on voit aussi dans Apocalypse 5 qu'on est des sacrificateurs. Tu as fait d'eux un royaume de et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Donc, on a une mission. Maintenant, la question, c'est comment on fait ? À partir de quelle loi l'Église avec un grand E est appelée à exercer son autorité ? J'avais déjà fait un message sur la grâce transformatrice. Donc, c'est sur le site, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. C'était vraiment une révélation pour moi de me dire qu'en fait, la grâce, c'est pas juste la grâce à bon marché, mais qu'elle a un pouvoir, une puissance de transformation, de changement radical. Et j'avais cité donc à ce moment-là, nous sommes des instruments de justice, dans Romains 6, verset 13, et la grâce règne par la justice. La grâce règne. Ça, c'est Romains 5, verset 20. Donc ça nous donne un petit indice de comment l'Église doit régner par la grâce. Donc bien sûr, il faut comprendre ce que c'est la grâce, etc. Donc je vous renvoie au message. Et donc, on va un petit peu plus loin aujourd'hui. Toujours pour exercer en fait cette justice de Dieu. Et comment dans la vie de tous les jours on exerce la justice ? Ben, on va au tribunal, n'est-ce pas ? Comment exercer ce mandat en tant qu'Église avec un grand E ? Et comment en fait apprendre à juger ? Alors là aussi, ça pique un petit peu. Parce que souvent on comprend mal le terme de juger. On sait que Jésus nous dit « ne jugez pas » dans Matthieu 7, verset 1, « ne jugez pas ». Mais dans 1 Corinthiens 2, 15, il y a écrit « l'homme spirituel juge de tout ». Donc, contradiction, pas contradiction ? Bon, bah, c'est là que le grec nous aide. Hein. Merci Seigneur pour les langues anciennes. En fait, c'est pas le même mot exactement, ce sont deux mots qui sont proches. Crino ou crinein, on prend en fait toujours jamais trop l'infinitif pour un verbe, mais plutôt la première personne du singulier au présent pour donner un nom de verbe. Donc c'est pour ça qu'il y a le petit o à la fin, comme phileo. Vous connaissez tous phileo, voilà. Donc crino ou crinein à l'infinitif signifie juger. Et dans le grec, ça signifie plaider aussi, hein, gouverner, décréter. Donc il y a une autorité qui va avec ce verbe. Et ça, c'est donc le terme qui est utilisé pour « ne jugez pas », Matthieu 7, 1, « ne condamnez pas », « ne décrétez pas ». En gros, « ne donnez pas de sentence, de condamnation, avant même le procès ». Et le verbe qui est utilisé pour « l'homme spirituel juge de tout », c'est « anakrino ». Donc c'est un composé, il y a un préfixe hein, qui est ajouté à crino et qui signifie à travers, au milieu, parmi. Et donc ça signifie plus précisément interroger et examiner. Et si vous allez voir donc la manière dont c'est traduit dans l'évangile, dans les évangiles, c'est souvent traduit par examiner, chercher, pour pouvoir ensuite donner une vérité ou une idée, une opinion. Mais au départ, ça signifie vraiment interroger, examiner. Donc c'est déjà intéressant, il y a une petite nuance. L'homme spirituel, si on veut paraphraser, examine tout. Il interroge tout. Il exerce, en fait, son discernement. Discernement, ça vient du latin, cette fois-ci, dis carnere, et c'est un peu le même principe. Cerner, donc vous comprenez bien, hein, à travers, essayer de passer au crible, passer au tamis. Donc ce sont des verbes synonymes. Et ça n'a rien à voir avec le fait de condamner. D'accord ? Même si ça peut être la conséquence. Hein. Mais il y a d'abord un travail, une action très, très longue à faire, hein, d'examiner, d'interroger. Et c'est ce qui se fait dans les procès. Une instruction, elle dure très longtemps, hein, parce qu'il y a tout ce travail de recherche, travail de, oui, pour chercher toutes les pièces du procès qui vont être discutées. Donc ça prend beaucoup de temps. Et nous, humainement, on a tendance à condamner avant même le procès. Il faut le dire, hein, faut être honnête. On a une émotion qui nous arrive, quelque chose d'injuste, et hop, ouf, ça remonte. Oh, ça va pas, c'est pas normal, c'est mauvais. C'est normal, enfin, c'est une réaction humaine, d'accord ? Et donc, c'est très difficile de garder sa tête froide pour examiner justement toutes ces pièces dont on parlait, qui sont ajoutées donc au dossier. Et on voit que la justice humaine s'oblige à le faire, et il y a plusieurs personnes qui le font. Il y a tout un, enfin, on va pas. Vous avez déjà la représentation d'un procès dans votre tête. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et en fait, le principe de la justice humaine, c'est que tout le monde, enfin chaque accusé est innocent avant qu'on ait pu prouver en fait sa culpabilité. Et c'est déjà pas mal, même si c'est pas facile et qu'on aurait tendance à voilà condamner très facilement quand on sait qu'il y a des crimes horribles. D'ailleurs, le mot crime, ça vient de crino, hein, crima, c'est le jugement en fait, c'est une action qui est condamnable par jugement. Donc tout ça, c'est le même champ lexical. Même famille de mots, même. Donc, la fulgurance des émotions fait qu'on a souvent un jugement qui est préétabli. Et ça, c'est vraiment la tentation de la chair, évidemment. Et c'est pas facile de garder sa tête froide. Alors, pour pouvoir juger, il faut connaître les lois à partir desquelles on va juger, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas spécialiste du code civil ou du code pénal, mais en France, voilà, on a un certain nombre de lois. Et la loi du royaume, c'est donc celle que vous connaissez tous par cœur. Pour nous, en tant qu'Église, on juge selon les lois du royaume. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. On est toujours dans le même thème, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est une loi de vie qui affranchit de la loi du péché et de la mort. Et en ce moment, on a besoin de se rappeler que l'Église, elle apporte la vie, n'est-ce pas? Avec tous les décrets de mort inscrits dans notre Constitution maintenant, vous savez de quoi je parle. On a besoin de se rappeler que l'Église, elle est là pour décréter la vie. Alors, on avait parlé un petit peu de œil pour œil, dent pour dent, vous vous souvenez, comme un principe de réparation proportionnelle au préjudice subi, pour mettre des bornes, en fait, à l'esprit de vengeance, qui veut toujours aller plus loin, et c'est un esprit de meurtre, en fait, hein. Mais on va aussi encore plus loin. On en avait parlé un petit peu lors du dernier message sur l'amour sacrificiel, c'est-à-dire aimer comme Jésus. Dans Matthieu 6, il nous demande d'aller plus loin que simplement ce qui a été déjà enseigné, comme les 10 commandements par exemple. Et les directives de Jésus, elles sont lourdes de conséquences. Elles sont difficiles, elles sont impossibles à mettre en pratique par la chair, impossible, uniquement par l'esprit, et elle nous demande d'aller vraiment au-delà de nous-mêmes. Donc je vous rappelle simplement dans Matthieu 6, tout ce qu'on avait vu la dernière fois sur aller au-delà de nos propres pensées, de notre propre façon de faire, et c'est un rappel aussi de Ésaïe 61 pour délivrer, pour apporter l'huile de joie au lieu de la cendre, etc. Vous connaissez Ésaïe 61 par cœur, n'est-ce pas? Et par rapport à ces 10 commandements, Jésus nous dit dans Matthieu 22 que les commandements les plus importants, qui vont au-delà des 10 commandements, mais qui accomplissent, en fait, qui résument, hein, puisqu'il y a donc un docteur de la loi qui vient lui poser la question, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc on est dans Matthieu 22, verset 36. Jésus lui répondit au verset 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc là, c'est où on en est aujourd'hui. Ça n'abolit pas la loi, ça l'accomplit, hein. C'est ce que Jésus est venu faire. Et voici la loi sur laquelle il nous est permis de juger. Je regarde l'heure, je ne sais pas à quelle heure je vais commencer. Donc, la loi sur laquelle il nous est permis de juger, c'est est-ce que ce qui se passe, ce qui est devant nous, ce qu'on doit discerner, est-ce que c'est en lien avec l'amour qu'on porte à Dieu? Est-ce qu'on l'honore? Est-ce qu'on honore Dieu? Est-ce que c'est en lien avec l'amour qu'on se porte les uns aux autres? Est-ce qu'on honore la vie? Et c'est pour ça qu'on doit juger de tout. Si on est spirituel, c'est-à-dire qu'on obéit à la loi de l'esprit, puisqu'on juge par l'esprit, n'est-ce pas? On sait que la chair, elle est beaucoup trop faible. Donc on juge à travers ce filtre. C'est comme si on avait des lunettes de l'amour de Dieu pour lui d'abord, et ensuite les uns pour les autres. C'est la croix, hein. D'abord lui, et puis les uns pour les autres. Ça découle en fait de notre amour et de notre adoration pour Dieu. Donc ce tamis, quand on passe au crible, quand on passe au tamis, hein, c'est vraiment le sens même du mot discerner, hein. Passer au tamis, c'est le tamis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Et qu'est-ce que Jésus a dit et surtout qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est fait justice pour nous. Et Jésus, donc il a tout payé, il a pris le fardeau, il a pris le péché, il a pris la condamnation à notre place. Et on parlait de bonne nouvelle tout à l'heure, mais c'est ça la bonne nouvelle quand on évangélise et qu'on dit qu'en fait, ben, place-toi comme si tu étais dans un tribunal, que tu es l'accusé, que tu as tout contre toi parce que le péché il est là et il a produit la mort dans ta vie, mais que à côté de toi, il y a quelqu'un qui prend la condamnation à ta place, c'est une bonne nouvelle, on est d'accord. Donc quand on évangélise, au lieu de dire « repends-toi, sinon tu vas en enfer », et à la place, on dit bah, « Jésus, lui, il a payé pour toi, il a pris ton péché pour que tu sois libre », c'est pas du tout la même chose, on est d'accord. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et c'est un scandale judiciaire d'ailleurs. Parce que c'est pas juste. C'est pas du tout juste que quelqu'un d'autre paye à notre place. C'est le coupable qui doit payer. C'est lui qui doit faire la prison. Donc c'est la grâce, c'est un scandale. On l'appelle le scandale de la grâce. Mais c'est elle qui règne. Alléluia. Donc laissons la grâce régner par la justice. Si on ne le fait pas, en fait, on fait un pacte avec l'esprit de critique et de condamnation. Et donc là, bien sûr, c'est un tout autre, toute une autre, comment je pourrais dire, influence spirituelle. C'est Jézabel, évidemment, hein, qui condamne, qui intimide, qui essaye d'impressionner. Et en fait, il faut tenir bon en tant qu'Église, bien sûr, puisqu'elle va essayer de nous intimider, elle va essayer de nous enlever notre capacité à croire qu'en fait, Jésus nous a donné cette autorité. C'est subtil, il y a des mensonges. Élie, ben, il était sous le figuier, il était impressionné, il avait pourtant dégommé les prophètes de Baal, et puis il s'est laissé intimider par Jézabel. Et en tant qu'église prophétique, forcément, on va confronter Jézabel. Forcément, elle va essayer de nous intimider. Forcément, elle va essayer de nous dire « Tu crois vraiment que tu dois faire ça ? Tu crois, ton autorité, elle est où ? Tu viens de... Avec quel mandat ?» Donc, c'est important qu'on sache quel est notre mandat, quelle est notre autorité, quelles sont les limites aussi de notre autorité et de qui on la tient. Et j'avais vraiment cette image, cette vision qui me revient sans cesse, hein, de l'épouse de Christ qui sort de l'eau. Hein, elle était immergée, comme dans le Saint-Esprit, elle était complètement purifiée. Elle sort de l'eau et elle se tient à côté de Jésus. Et comme elle se tient à côté de son époux, ils sont un. Il y a une unité entre Jésus et son Église. Et donc, elle fait ce que Jésus a fait. Ce que Jésus fait. Ce qu'il voit faire au Père. Donc il y a cette autorité qui est déléguée à l'Église pour aller. Mais c'est uniquement dans cette intimité avec son époux. Sinon, c'est les œuvres de la chair et on sait par quoi elles sont inspirées. Donc c'est important, en fait, de travailler ce discernement. On ne peut pas simplement se dire « c'est Dieu qui juge, moi je suis là pour aimer et pour bénir ». Oui, on est là pour aimer, on est là pour bénir. Mais on est là pour discerner aussi. Parce que si on ne le fait pas, en fait, c'est comme ce que Jésus reproche aux pharisiens au début de Matthieu 16. Il leur dit « vous savez discerner la météo, entre guillemets, mais vous ne savez pas discerner les temps ». On doit pouvoir discerner les temps, on doit pouvoir discerner ce qui se passe dans notre nation, ce qui se passe dans notre Église, parce qu'en fait, c'est une protection que Dieu nous donne. Il a donné les dons de discernement, justement, comme une protection, et ça me fait penser à tous les organes de notre corps humain qui font ce travail de tri. Ils font ce travail de tamis, entre guillemets, pour ne garder que ce qui est bon. Et c'est important pour la survie de l'organisme. Parce que si on gardait tout ce qui était toxique et qu'on n'éjectait pas, on serait vite pollué. Donc là, c'est pareil. Il y a de nombreux mécanismes dans le corps humain. C'est très, très complexe, n'est-ce pas? Mais c'est fascinant. Enfin, c'est fascinant. Parce qu'il y a tout un tas d'étapes pour que le corps ne soit pas souillé, pour qu'il puisse dégager tout ce qui lui fait du mal. Et dans le corps de Christ, on doit faire pareil. On a des ministères de discernement, de sagesse, qui ont ça, c'est un don de Dieu, hein, c'est en eux, quoi. Et ben, il faut les écouter. Parce que c'est une protection, en fait, pour le corps. Donc ceux qui ont ce rôle dans le corps de Christ ont une grande responsabilité, évidemment, donc ils doivent aussi être formés dans leurs dons, être accompagnés, etc. C'est sûr que c'est tout un accompagnement, hein. Mais c'est un don qui est crucial pour la bonne santé du corps. Pour ensuite dire la vérité dans l'amour, aider ceux qui sont plus faibles dans la foi, les faire grandir, etc. Mais surtout aussi pour dénoncer les manœuvres de l'ennemi. Et puis, on parlait de loups tout à l'heure, hein, c'est faire taire les loups. Hein, le lion de Juda, il rugit sur les loups, il ne veut pas que ses brebis soient attrapées par les loups. Donc on a ce travail à faire là. Donc pour conclure sur cette partie, on doit d'abord interroger, examiner, hein, anakrino, avant de pouvoir discerner. Donc il y a diakrino, c'est un autre mot un autre verbe en grec pour parler de cette fois du discernement. Et quand on a justement ces lunettes de l'amour, de la loi de Dieu, hein, d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même, alors on peut juger. Et parce qu'on sait que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, c'est pas contre les gens. Et c'est seulement Dieu qui va juger. D'ailleurs, le jugement dernier, ça nous fait toujours un petit peu peur, mais c'est une bonne nouvelle, hein, aussi. Hein. Nous, on n'est pas censé avoir peur du jugement dernier, puisque Jésus, il connaît notre cœur, il connaît ce qui est au plus profond de notre cœur, même mieux que nous-mêmes. Et donc nous, notre travail en tant qu'Église, et l'Église avec un grand E, c'est de montrer la lumière. Mais c'est la lumière de Christ, la lumière, voilà, qui vient d'en haut. Et par contre, pour le monde des ténèbres, aucune pitié, hein, n'est-ce pas? Donc, dans 1 Corinthiens 6, vous avez un petit peu ce même principe. Pour remettre une petite couche, quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, hostile, plaider devant les injustes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas justifiés par Christ, et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, pardon, à plus forte raison, les choses de cette vie. Donc nous devons être capables de juger les choses de cette vie. C'est très important d'apprendre à exercer son discernement. Et c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur dans mon métier d'enseignante. Je travaille beaucoup ça avec les élèves, petit bout par petit bout, hein, de la 6e à la 3e. Et ça se construit, c'est une préparation, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais si on considère que les élèves sont appelés à devenir des disciples, au lycée, en tout cas, on les forme comme, puisqu'au lycée, ils choisissent de venir chez nous, ils choisissent d'être là, ils doivent même faire une lettre de motivation pour dire pourquoi ils veulent être là. C'est vraiment pour recevoir cet enseignement de disciples. Et donc de futurs gouvernants dans le monde spirituel, qui vont régner avec les royaumes de Dieu, avec les valeurs du royaume, pardon. Et justement, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote avec mes troisièmes. Je leur disais qu'ils étaient au bon endroit pour apprendre justement à discerner. On était en train de finir le livre de Jérémie. Et puis, je faisais un parallèle avec Daniel qui était à Babylone et qui était entouré d'occultisme et puis d'idolâtrie. Et il a choisi de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et donc, je leur rappelais pourquoi l'établissement Daniel s'appelait Daniel. Et donc j'ai cité le verset, etc. Et je leur ai dit qu'ils étaient appelés eux aussi à, comme Daniel, se positionner dans une culture qui est à contre-courant, évidemment, des valeurs du royaume, une culture de mort, un peu comme si on était aussi en exil, puisqu'on n'est pas encore avec Jésus dans son royaume, et qu'ils étaient appelés à confronter vraiment cette adversité, à se positionner et à montrer la supériorité des lois de Dieu, comme l'a fait Daniel avec avec son positionnement. Et pour ça, ils ont besoin d'être enseignés, d'être préparés, d'être accompagnés. Ça demande du temps, du discernement. J'avais entendu un jour quelqu'un qui disait comment on fait pour comment on prépare, alors quand il n'y avait pas encore les machines, quelqu'un qui va discerner les faux billets. Vous avez déjà entendu cette histoire? Comment on fait pour apprendre à discerner les faux billets, à repérer des faux billets? Ouais, il y a plein de techniques, mais en fait, même juste au toucher, quand quelqu'un est habitué, parce qu'il est habitué en fait à toucher tout le temps des vrais billets, il est sans cesse confronté à la vérité, entre guillemets, c'est un symbole bien sûr, et quand il y a le faux billet qui apparaît, il le voit tout de suite, rien qu'au toucher. Et c'est ce que je faisais un peu le parallèle avec ce qui vivait ici à l'établissement, c'est qu'on essaye le plus possible de les entourer de vérité, de les enseigner dans la vérité, comme ça dès que le mensonge apparaît, il le voit tout de suite. Le discernement, il est exercé en fait. Et ça vient pas en maternelle, même s'il y a déjà du discernement qui peut être donné à des élèves de maternelle. Mais vous comprenez le principe, c'est que ça se construit, ça prend du temps. Et nous, en tant que disciples, bah, c'est pareil. On a besoin d'être confrontés sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt à la vérité pour pouvoir dénoncer le mensonge et le voir tout de suite, dès qu'il arrive. Et donc moi, je comprends justement le principe de juger comme ça. Et Luc nous a beaucoup parlé d'espérance, et je pense que justement ça fait partie de l'entraînement, s'entraîner à garder nos yeux alignés sur l'espérance, parce que c'est pas naturel, et que si on regarde les infos, on peut très vite basculer de l'autre côté. Donc on a besoin de toujours demander à Dieu comment aligner notre pensée, nos pensées sur son espérance. Et j'ai une petite anecdote. Ça marche toujours bien avec les anecdotes. Je pense que Dieu, il me fait vivre des situations exprès pour vous, là, pour pouvoir témoigner pendant mes messages, parce que je vis des trucs que j'aurais jamais imaginé. Bon. Donc, j'ai dû en fait me repentir d'avoir cédé au fatalisme par rapport à une situation à l'école où j'avais un petit peu classé l'affaire assez rapidement en disant bon là c'est la responsabilité des parents, moi je peux pas aller plus loin que ça parce que j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose. Et ça c'était très confortable pour moi de me dire ok, c'est plus moi qui gère. Mais j'ai été reprise par le Seigneur parce que il y a une situation qui s'est passée, j'ai fait une maladresse, on va dire, ou quelque chose qui n'était pas... Enfin, je ne me suis pas tout de suite rendu compte. Et puis après, ça a fait ding-ding, et cette situation est revenue. Et je dis, oh non, j'avais pas envie. J'avais pas spécialement envie de revenir dans cette situation et de prier pour ça et de faire quelque chose, quoi. J'avais juste envie de laisser ça aux autres. Et donc... je dis ok Seigneur, t'as besoin de me dire quelque chose par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Et il m'a fait comprendre que j'avais émis un jugement trop rapide, et on va dire, alors j'étais pas en train de condamner, c'était pas de la condamnation, c'était juste c'est comme ça, quelqu'un d'autre va s'en occuper, ou avec le temps peut-être que ça va s'arranger, mais pour l'instant ça me semble impossible, en gros, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc c'était ce côté un peu fataliste de dire je peux rien faire. Je suis démunie, je peux rien faire, donc je laisse les choses se faire toutes seules, ou à rigueur je vais prier un petit peu, je vais en parler au groupe d'intercession et puis ça ira quoi. Mais non. Le Seigneur avait un autre plan, parce que là je suis directement concernée. Tout va bien, tout va bien. En fait, je suis directement concernée et mon autorité en tant qu'enseignante aussi. Donc, je ne peux pas me défiler, en fait. Et le Seigneur, il veut que, justement, je m'en occupe d'une certaine manière. Donc, j'ai commencé par prier et je lui ai demandé comment tu veux que je voie la situation, comment tu veux que je voie l'enfant, comment tu veux que je voie la famille. Et il m'a vraiment donné de la compassion, en fait. Il m'a donné... une compassion qui était assez superficielle au départ, elle s'est vraiment approfondie. Et ça, c'est là qu'on voit que c'est la marque de Dieu, hein. quand il y a justement le travail de l'amour de Dieu qui est fait dans nos cœurs. Et au lieu de m'énerver face à l'agressivité que j'avais en face, parce que ouais, c'était pas très sympathique, mais en fait, je ne voyais même plus cette agressivité. Je ne l'entendais même plus dans mon esprit, dans ma tête. C'était comme si ça avait été anéanti par l'amour que Dieu m'avait donné pour cette famille. Là aussi, c'est le premier miracle. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est impossible par la chair. De manière générale, moi, comme tout le monde, si on m'attaque, ben je réponds. Mais là, j'avais pas du tout envie, donc j'avais juste besoin de faire un pas en arrière. Mais en fait, ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il m'a fait faire deux pas en avant, en fait. Hein. Au contraire, il m'a propulsé dans la situation pour recevoir ce que lui voulait donner à cette famille. Et du coup, ça me donne beaucoup d'espérance, en fait, pour que les choses changent. Et j'avais partagé déjà la dernière fois une autre situation où je m'étais retrouvée dans un truc, une erreur de débutante, hein, mais vraiment. Hein. Et en fait, le Seigneur est en train de tourner cette erreur en miracle. Parce que c'est en train de toucher une famille au plus profond de choses, bien sûr que j'avais discernées, mais où je me disais qui je suis pour aller m'occuper de ça, quoi. Et c'est ce que le Seigneur fait en ce moment, c'est qu'il va aller au-delà. On parle toujours de l'au-delà en ce moment, mais c'est ça. Hein. Il va aller au-delà de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut imaginer même faire, et il va le transformer en miracle, quoi. Et c'est pas forcément des choses qui se voient à l'œil nu, mais le travail dans les cœurs, il est énorme. Et ça commence par notre cœur à nous. Donc c'est juste cette position de vulnérabilité de dire, ok Seigneur, peut-être que j'ai jugé trop vite, et ça nous arrive à tous, hein, il n'y a pas de condamnation. Mais si j'ai jugé trop vite, montre-le-moi et montre-moi comment toi tu veux que je vois les choses. Qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ça? Qu'est-ce que tu peux faire à travers ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, ça lui laisse le champ libre pour un miracle. Donc avec lui, on n'est jamais démunis. Et même quand on a classé une situation, ils peuvent rouvrir le dossier. C'est trop drôle. Donc, j'ai essayé de ne pas prendre trop de temps, mais on va arriver au temps de prière. Alors, juste un petit truc que j'avais entendu aussi un jour dans un enseignement à Bethel. C'est une phrase qui m'a poursuivie aussi par rapport à l'espérance. C'est peu importe le domaine où j'ai pas d'espérance, c'est que d'une manière ou d'une autre, ce domaine, il est sous l'influence d'un mensonge. Et donc, on peut demander au Seigneur, et c'est attention à vous quand vous faites cette prière. Seigneur, est-ce qu'il y a encore un domaine dans lequel je n'ai pas d'espérance? Parce que je dis attention parce qu'il va vous montrer. Et du coup, Seigneur, est-ce que je crois un mensonge par rapport à ça? Donc en ce moment, on peut ne pas avoir beaucoup d'espérance pour notre gouvernement ou notre nation, mais peut-être que si on n'a pas beaucoup d'espérance pour notre nation, c'est qu'il y a un mensonge. C'est qu'on croit que c'est l'ennemi qui gagne, c'est lui qui est plus fort, alors que c'est Dieu qui est sur son trône. Et bien sûr, il y a des choses, il faut prier, on va prier, hein, on va prendre autorité, on va nettoyer, on va faire tout ce qu'on a besoin de faire en tant qu'église sacrificateur, hein, qui demande pardon pour les péchés de la nation, parce que bien sûr, il faut demander pardon, parce que forcément, s'il y a un péché, il y a aussi des conséquences. Hein. Donc bien sûr, il y a tout ce travail à faire, mais si une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a nettoyé, purifié, que le Seigneur est venu par son sang, c'est pour ça qu'on va le faire par la Sainte Seine, hein, c'est qu'on se positionne sous le sang, sous l'action parfaite rédemptrice de Jésus. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on peut avoir de l'espérance. On peut avoir l'espérance que Dieu va changer les choses, qu'il peut faire quelque chose. Et on a d'ailleurs des petites prémices qui nous disent que c'est possible. Il y a des choses qui peuvent changer. Donc on va renoncer au fatalisme, tenez-vous prêts. On finit avec 2 Timothée 2. Cette parole est certaine. 2 Timothée 2, 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, il ne peut pas renier ses alliances, il est fidèle. Et on s'attache et on va se positionner sur ce roc de la fidélité de Dieu, même pour notre nation qui fait n'importe quoi. Il est fidèle. Il est fidèle. Vous êtes prêts? On va commencer par prier et par demander pardon. Et ensuite, du coup, ça nous permettra en fait de renoncer à tous les mensonges. Et si vous recevez justement des mensonges,